Et nous voilà rendus à la face 2 de la sixième cassette. Permettez-moi de mentionner, pour terminer le thème de la force positive sur le prophétisme, qu'il y a une cassette d'accompagnement qui est intitulée « Un certain apartheid sévit face au prophétisme en Église ». Point d'interrogation. Le numéro sera 08-D110. Passons à la sixième force positive, dont la puissance s'accentue énormément en Église communauté. Même si elle est peu connue et fort discrète jusqu'ici. Il s'agit de cette intensification de relations filiales entre notre Père du ciel et ses fils et filles de la terre, que de plus en plus d'hommes et de femmes sont en train de découvrir, d'éprouver, d'apprécier comme jamais auparavant, semble-t-il, et depuis 15 ou 20 ans surtout. Pour les fins de notre partage, j'appelle ce phénomène nouveau et intense la mission du Père. Comme, depuis 15 ans, j'ai eu plus que jamais le temps et le désir de me consacrer à l'écoute attentive non seulement du Seigneur, mais des âmes, je n'ai pu m'empêcher d'en faire le constat. En effet, il se produit présentement en Église et à un rythme croissant des retrouvailles extraordinaires entre notre Père ou bon Papa du ciel et de plus en plus de ses enfants en Église. Après avoir connu une bonne relation avec Jésus et l'Esprit-Saint, plusieurs sont conduits au Père et peuvent donc connaître une relation beaucoup plus précise et identifiée avec chacune des trois personnes de la Trinité. Cette mission du Père atteint donc présentement une multitude de gens à travers le monde. Et elle atteint, on ne peut s'empêcher de le constater, tout particulièrement ceux et celles qui ont le privilège de voir Jésus, selon sa promesse bien connue, les conduire au Père pour une relation encore plus complète, plus profonde et sans précédent dans leur vie. Dans Saint Matthieu 11, 25 à 27, on lit ceci. « Tout m'a été remis par mon Père, dit Jésus. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » C'est comme si le Père, encore plus que jamais auparavant, manifestait actuellement à son peuple le désir de se confier encore davantage à ses enfants de la terre, de se les associer de plus près, de les aider et encourager à être plus dociles et disponibles envers les deux grandes missions déjà révélées et bien connues, celle de son Fils Jésus et celle de leur Esprit Saint d'amour. La mission du Père ne se substitue à aucune des deux. Au contraire, elle vient renchérir sur elle. Elle y apporte un plus, un surplus ou surplus appréciable à ce moment-ci de l'histoire du monde et de l'Église. Cet excédent ne distrait pas, n'éloigne nullement du Christ Jésus ou de l'Esprit-Saint, car le Père nous y reconduit continuellement et nous permet de connaître plus à fond Jésus et l'Esprit et de collaborer encore beaucoup plus intensément à leurs appels et à leurs missions. Cette mission dite du Père, elle est à la fois mystique, individuelle et invisible. Mystique en ce sens qu'elle se situe au niveau intérieur de l'âme, dans la foi inspirée et toute pure, donc à un niveau supérieur à celui de la raison, qu'elle est le fruit d'une union intime avec Dieu et devient ce qu'on appelle un secret du roi entre Dieu et son titulaire, est une grâce non perceptible de l'extérieur, à moins qu'elle soit expliquée à un frère ou à une sœur. Elle est individuelle, en ce sens qu'elle est chacun pour soi avec Dieu d'abord. On ne rejoint les autres qu'en passant par son agir à lui. Cette mission interdit tout planning, toute structure, toute concertation, rassemblement, contact, hiérarchie, ministère organisé, etc. Tout se pense, se ressent et se vit en son âme et conscience personnelle, en relation directe avec Dieu qui inspire son enfant. Enfin, cette mission dite du Père, elle est invisible. Elle équivaut à un état de prière continue, tout à fait intérieur et non extériorisé, dans lequel notre cœur d'enfant de Dieu refile vers le Père ses constants désirs de salut et de bénédiction envers ses frères et sœurs de la terre, confiant dans la foi que lui, le Père, en fera son agir immédiatement. C'est donc invisible aux autres, inaudible, impalpable, non perceptible. Personne d'autre que chacun d'entre nous peut s'en rendre compte. J'oserais dire en terminant que c'est ni plus ni moins une réactivation vivante en nous de la récitation du Notre Père. Un genre d'explicitation actualisée des sept grandes requêtes du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, etc. D'ailleurs, dans deux cassettes intitulées « Laissons-le donc nous aimer une fois pour toutes » et une autre cassette « La grande mission actuelle du Père », je reviens abondamment sur ce sujet. Septième force positive qui explose de façon incroyable actuellement en Église. C'est le rôle exceptionnel et même prépondérant d'ordre mystique et eschatologique qui se révèle en Église à un nombre croissant de femmes. Quand il s'agit de connaître et de préciser le rôle de la femme dans le monde et dans l'Église d'aujourd'hui, on peut suivre deux circuits. Le premier, on peut écouter ce qui monte dans l'esprit des femmes d'aujourd'hui à la lumière de leurs connaissances, de leur expérience, de leurs aspirations sociales, politiques, économiques et culturelles. Et en ce qui a trait à l'Église, à leur désir de servir de façon significative, d'être reconnues fidèles en Église à part entière, leur désir de répondre et d'épanouir toutes leurs aspirations spirituelles et ecclésiales. Ce circuit est important. L'intelligence s'y manifeste, éclairée et soutenue par la science et l'expérience. C'est d'ailleurs le circuit poursuivi actuellement par ceux et celles qui discutent, par exemple, de l'ordination des femmes, du partenariat entre l'homme et la femme en Église, etc. C'est tout à fait juste et raisonnable, et cette recherche doit se poursuivre. Mais il y a un tout autre circuit que personnellement j'ai découvert soudainement, après près de 30 ans de sacerdoce, par une merveilleuse interpellation providentielle sans doute du Seigneur. C'est le circuit de l'écoute attentive de l'âme féminine, elle-même à l'écoute attentive du Seigneur à ce moment-ci de notre histoire et de l'Église. Dans ce circuit, on ne part donc pas de nos idées, de nos connaissances comme telles, mais on se met en bonne posture, sur la même longueur d'onde, pour bien entendre, apprendre et comprendre ce que Dieu est en train de mettre au cœur d'une multitude de femmes face à l'importance exceptionnelle de leur rôle à cette heure-ci de l'histoire du monde et de l'Église. Mais c'est de toute beauté, mes amis, au-delà de toute imagination humaine. Je le déclare, à l'écoute attentive et comblée de ce phénomène qui ne cesse de s'accentuer, à ma connaissance depuis 15 ans, la femme est présentement appelée directement par le Seigneur à un rôle exceptionnel en Église d'aujourd'hui, et à certains égards, je dis même prépondérant. Elles sont légions, les femmes qui entendent déjà ces appels au fond de leur cœur, en sont comblées et réjouies, et sont déjà engagées à fond dans ces nouvelles missions des plus variées, d'ordre et de portée mystique et eschatologique. Le Seigneur a provoqué ma curiosité et cultivé ma disponibilité à cet égard, vous le savez, dès le début des fondations, en comblant ainsi de dons et de grâces mystiques sous mes yeux, notre co-fondatrice Isabelle Gauvin. Humainement parlant, elle était la seule de notre jeune équipe de 5, 4 prêtres et une laïque, à n'être pas ordonnée et n'avoir pas fait d'études spéciales en théologie ou en sciences religieuses. Mais le Seigneur a passé puissamment par elle pour nous alerter tous, tous les discernements requis ayant été bien faits au fur et à mesure, sur l'importance et l'urgence de nous mettre ou remettre sérieusement tant à son écoute à lui, le Seigneur, qu'à sa disposition, si on voulait être et demeurer ses vrais instruments. Je n'entrerai pas dans le détail à ce moment-ci du moins. Des voies V-O-I-E-S et V-O-I-X spirituelles, nouvelles et puissantes, invisibles mais réelles, que le Seigneur ouvre dans le cœur des femmes actuelles en Église à travers le monde. Je peux seulement dire que les femmes n'ont plus rien à envier aux hommes à ce niveau du moins. Si elles accueillent et se consacrent à ces nouveaux mandats, c'est plutôt pour nous, les hommes, que se pose alors le problème d'un sérieux rattrapage à faire. Bien entendu, ce vote de confiance remarquable et remarqué du Père envers ses filles, à l'heure où l'Église doit songer à sa relance spirituelle en profondeur, ne donne pas, pour autant, un certificat de renvoi, d'incompétence ou de chômage à nous les hommes. Mais ce phénomène en cours attire joliment notre attention à nous les hommes sur cet urgent besoin de nous recycler face à cette éventuelle et précieuse collaboration entre hommes et femmes au sein des œuvres nouvelles du Seigneur à venir en son Église. D'ailleurs, dans une cassette dont le titre sera « Le couple spirituel homme et femme » responsable dans une œuvre du Seigneur, je reviendrai sur ce thème. Je m'adresse donc à vous, mesdames, mesdemoiselles, mes chères sœurs dans le Christ. Le Père fait de toute évidence un appel exceptionnel aux femmes en Église. Ouvrez grand, très grand, vos RCA, c'est-à-dire récepteurs cœur-amour. Il veut vous parler comme jamais auparavant. Pendant qu'en Église visible et institutionnelle, on étudie, on discute, on tente de préciser un statut meilleur à la femme, et avec raison, et qu'on n'a pas encore fini, semble-t-il, d'examiner cette question à fond, le Père, lui, agit déjà fortement dans les cœurs, en direct, et donne présentement à la femme en général, et à bien des femmes en particulier, des grâces, des dons, des mandats tout simplement exceptionnels. Bien des mystiques, d'ailleurs, dans le monde, reçoivent ces confidences et des confirmations abondantes à ce sujet. Personnellement, je crois que c'est la femme, ce sont les femmes, qui vont le mieux capter ce torrent d'amour et de miséricorde que le Père fait surabonder sur le monde actuel et son Église. Plus que les hommes et mieux que l'homme, la femme compte sur son cœur, c'est l'écouter et suivre ses impulsions. Plus et mieux que l'homme, elle accueille l'amour et y croit, en vit et y donne sa vie. Dieu qui veut communiquer son amour à ses enfants jouit donc d'une cote d'écoute privilégiée auprès d'elle. Huitième force vive en Église. La charité fraternelle et communautaire doit et va reprendre toute sa place en Église. Nous connaissons tous l'hymne splendide à la charité de saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens 13, 1 à 13. « Quand je parlerai en langue celle des hommes et des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toute la science, et c'est pas peu dire. Quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » On connaît également la saisissante exhortation de saint Jean dans sa première épître au chapitre 3 et 4, notamment quand il dit « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. » Ou encore, quand il dit « N'aimons pas seulement en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. » Ou encore, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas. Enfin, nous connaissons tous le grand commandement nouveau de Jésus. Jean 15, 12 et 13, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Tout cela, on le sait. On le lit et relit. On se le dit et redit. Et malgré tout cela, à mon avis, nous sommes en train de battre en Église, et spécialement en un très grand nombre de nos milieux ecclésiastiques, religieux et milieux de mouvements dits de renouveau, tous les records en fait de manquement à la charité fraternelle et communautaire. Jugement téméraire, critique, rivalité mesquine, diffamation, jalousie pastorale, calomnie, médisance, intolérance et intransigeance. Comme je le dis souvent, notre Église n'a même pas besoin d'ennemis extérieurs pour lui nuire et la combattre. Notre propre comportement face à la charité, ou plutôt la faiblesse et l'absence regrettable de charité, fait que notre Église est rongée de l'intérieur par ces impitoyables termites que sont nos manquements incroyables à la charité. L'Église s'auto-détruit au fur et à mesure, en flagrante contradiction avec ce qu'elle prêche pourtant, et en court-circuit constant avec l'essentiel de sa mission qui est de témoigner de l'amour de Dieu pour et en ce monde. Je reviendrai d'ailleurs amplement et énergiquement, croyez-moi, sur le sujet, comme vous pourrez le constater vous-même, avec des illustrations vivantes et colorées au besoin, dans deux cassettes intitulées « Le mangeons-nous les uns les autres en Église » PH 2.12 et 13. En fait, il faut bien l'avouer, ce n'est pas tout à fait nouveau. Saint Paul disait aux Éphésiens, et je cite, « Si vous vous dévorez les uns les autres, vous pouvez vous attendre au pire. » Et Cristallin commente, « L'heure est arrivée où il faut en finir avec ce cannibalisme mutuel, même si au début, il n'a voulu être que du grignotage, tartiné avec les plus saintes motivations. » Soit dit en passant et en parenthèse, les tristes individus qui ont lancé cette mer de boue contre nous depuis quelques années ne sauront jamais assez à quel point ils nous ont grandement aidés à graduer à l'école, que dis-je, à l'université de la vraie charité. Ce vœu annuel de charité exemplaire et héroïque que nous renouvelons chaque année à la demande du Seigneur, a pris toute sa valeur, sa couleur, son odeur et sa saveur, grâce et même à même leur injustice et scandale. Dieu est vraiment le seul capable de tirer tant de bien de tant de mal. L'heure est venue, mes amis, du retour en force de la charité fraternelle et communautaire en Église. Non seulement parce que le peuple en général est déçu et scandalisé par toutes ces violations du commandement nouveau de Jésus « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est à ce signe que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. » Le peuple a même atteint un point de nausée profonde et d'écœurement face à tout cela. Mais la charité revient surtout parce que par ses grâces surabondantes actuelles, déversées au cœur même de chacun en son peuple, l'Esprit du Seigneur est en train de faire redécouvrir l'importance de cette charité, reine de toutes les autres vertus, pour le nouveau renouveau spirituel profond de l'Église. C'en est un signe, un sine qua non, à la fois une pierre d'angle et une clé de voûte, à la fois un point de départ et une ligne d'arrivée. L'amour, dit saint Paul, ne disparaît jamais, et des trois, foi, espérance et charité, maintenant l'amour est le plus grand. Mes amis, comme je l'ai souvent expliqué dans d'autres enseignements antérieurs, si l'amour trinitaire est vraiment l'alpha et l'oméga de chacun et de chacune des sauvés, l'Église qui les rassemble, a fortiori, doit elle aussi être climatisée tout à fait par ce même amour trinitaire. On ne saurait jamais se contenter en Église d'évoquer à l'occasion cet amour, de le proclamer dans de vibrantes homélies ou de savants ouvrages, d'en vanter les bienfaits constamment. Mais il faudrait absolument que cet amour soit réclamé et acclamé et qu'on en vive éperdument comme l'alpha et l'oméga de la vie même de l'Église. Notre Église, si elle se veut renouvelée, se doit d'être animée et guidée non seulement par des gens qui croient, qui prient, qui se dévouent, se désarment, ce qui est déjà bien, mais davantage par des leaders qui sont de toute évidence eux-mêmes comblés et enivrés par l'amour de Dieu, le Dieu de l'amour trinitaire. Des gens en amour, non pas seulement avec leur ministère et leurs bonnes œuvres, leurs activités, leurs réunions, leurs conférences ou leurs documents, encore moins avec leur autorité, leur prestige ou leur fonction, mais bel et bien en amour avec quelqu'un, avec ce Dieu trinitaire qui, par amour, agit continu, nous a créés, nous a sauvés, nous sanctifie par un amour sans prix et sans fin. Pour l'Église qui nous rassemble comme pour chacun des sauvés pris individuellement, l'amour trinitaire est l'énergie primaire à capter et à transformer à la base de toute initiative qui se veut bien inspirée, bien orientée et bien réussie. Bref, œuvre véritable du salut. Et ce n'est d'ailleurs qu'à cette condition, tenons-nous le pour dit, à cette condition d'être partout et toujours flamme vive, buisson ardent d'amour trinitaire et de l'être de façon évidente et constante, de vivre pour vrai ce commandement nouveau, ce « aimons-nous les uns les autres », que l'Église pourra vraiment rayonner dans et sur le monde et s'accréditer enfin comme une source de lumière, de paix et de courage dans le monde. Si belle et si adaptée que soient ses idées, ses activités, ses déclarations, ses projets, l'Église a et aura inévitablement de plus en plus de concurrents, d'adversaires et de dissidents sur terre. Mais si l'Église se laisse véritablement purifié, sanctifié, inspiré et enflammé à tous ses niveaux et en toutes ses instances par le feu incandescent de l'amour trinitaire, feu d'amour, cette charité, le coup de frappe de son message au monde, son apport au salut des hommes n'aura ni rival ni égal, croyez-moi. L'Église, en terminant donc, doit être le modèle, l'école, le lieu de ravitaillement de cet amour trinitaire qui circule entre nous et sauve et génère la miséricorde. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? C'est à ce signe, au singulier, que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Neuvième force positive, c'est la redécouverte et l'éducation sérieuse à la vraie liberté spirituelle d'enfants de Dieu. La liberté spirituelle des enfants de Dieu, elle est, nous le savons, un don du Père qui nous a fait ses enfants, une grâce acquise par le Christ. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés, Galates 5.1. Et c'est un bienfait communiqué par l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième épître aux Corinthiens 3, 17. La vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu est celle qui ouvre, pour ainsi dire, une voie rapide, une autoroute entre notre vouloir et notre jugement personnel d'une part, et la volonté et le jugement de Dieu d'autre part. Elle est prérequise et indispensable à tout équilibre ou orientation des autres formes ou expressions possibles de liberté, tant individuelle que sociale, tant intérieure, liberté de pensée et de choix, qu'extérieure, liberté d'expression ou de comportement. Tant que l'Église n'aura pas elle-même ouvert la marche et réussi cette conquête en son sein et en chacun de ses fidèles, le monde ne connaîtra pas la source vraie de la liberté avec un grand L, ni le moyen de s'y abreuver. Le monde connaîtra, et l'Église y tout, ces ridicules et néfastes expressions ou revendications actuelles de liberté souvent fausses, dommageables et répréhensibles aux yeux du Seigneur. D'ailleurs, comme vous le savez, sur ce thème, il existe déjà tout un enseignement à votre disposition intitulé « Vive la vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu ». On y parle non seulement de l'origine, de l'importance, de la nature et de la portée de la vraie liberté, mais également des obstacles courants que sont nos prises d'otages, nos états de dépendance et les jougs. Le tout est complété par l'exposé des facteurs qui favorisent la liberté. Comme nous le savons tous, en Église en général et en Église du Québec en particulier, on a très peu ou pratiquement pas développé, chez les clercs comme chez les laïcs, la vraie de vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu. On s'est plutôt appliqué à développer le « suis-moi ». Suis-moi ton curé. Suis-moi ton aumônier. Suis-moi ton évêque. Suis-moi ton directeur spirituel. Suis-moi ton boss, etc., etc. Les gens ont été d'abord et surtout des, excusez le mot nouveau pour une réalité ancienne, des suiveux. Quand nos mouvements dits de renouveau spirituel post-conciliaire sont entrés dans le paysage, il y a une vingtaine d'années, ils ont raté, eux aussi, l'occasion que pourtant leur inspirait l'Esprit-Saint au départ, d'éduquer leurs adeptes pour vrai à la liberté spirituelle d'enfant de Dieu. Cette liberté qui développe normalement en chacun, je le répète, la volonté, l'aptitude et l'habitude de toujours pouvoir se situer soi-même par-dessus tout et tous dans l'axe du vouloir et du jugement de Dieu. En effet, les autres qu'on écoute et qu'on voit à l'œuvre nous inspirent, nous confirment, nous guident, mais on n'est pas en dépendance d'eux continuellement pour repérer la volonté et le jugement divin dans sa vie et son agir. Malheureusement, la majorité de nos mouvements dits pourtant de renouveau et certains de nos centres de renouveau chrétiens ont cédé à la même tentation et commis la même erreur. Ils se sont substitués beaucoup trop à leurs adeptes fidèles. Les directeurs de ces mouvements et de ces centres, du moins on s'en rend bien compte ouvertement depuis quelque temps, dominent souvent spirituellement leurs collaborateurs et collaboratrices, les prennent parfois même en otage, avec les meilleures intentions et sans peut-être trop s'en rendre compte. Ils veulent tellement leur bien et ne risquer aucun brouillon ou erreur qu'ils se substituent à leur liberté spirituelle d'enfants de Dieu et retardent d'autant leur véritable maturité et croissance spirituelle. Dans la deuxième interpellation, qui sera mise en circulation, adressée aux dirigeants et membres des mouvements dits de renouveau spirituel, j'aurai beaucoup à dire à ce propos. Cristallin souligne encore une fois qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Il dit à la blague, « Jadis, on nous a éduqués au « suis-moi ». Aujourd'hui, on veut nous éduquer au « moi je suis ». Moi, je suis quelqu'un. Je suis tout à moi. Moi, 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 je suis, je suis, je suis. » Et il conclut, « Seule la liberté nous rendra libres. » Dans le sens de la liberté qui ne sera pas de suivre aveuglément un autre, ni de se replier stérilement sur soi. Soucieux de suivre Jésus, notre Maître, personne, vous le savez comme moi, n'hésitera à marcher à la suite d'un chef de file ou d'une file de chefs, en qui et par qui on retrouve vraiment Jésus-Christ. Car le circuit obéissance-autorité est une autoroute de libération dans la mesure même où tous les gens concernés, tant les chefs que les fidèles, s'enlignent ensemble bel et bien sur la volonté et le jugement divin. Mes amis, à l'heure actuelle, il y a une faim et soif évidente et croissante de vivre enfin en Église cette vraie, de vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu. Sachons accueillir, éclairer, favoriser et apprécier cette force positive. Car ne l'oublions pas, le Christ a donné sa vie pour que nous soyons et que nous demeurions libres, rappelle saint Paul aux Galates. La dixième force positive, elle se situe au niveau des jeunes d'aujourd'hui. Vous le savez, comme tous les êtres humains, les jeunes d'aujourd'hui se meurent de trouver la vraie réponse à cette faim et soif immense d'amour absolu qu'ils ont au fond du cœur. Cette soif, cette faim d'être aimé et de pouvoir aimer à fond. Depuis plusieurs décennies, ils cherchent éperdument, dans toutes sortes d'expériences, la vraie solution et ne l'ont pas trouvée. Plus jeunes que nous, ils ont épuisé très tôt toute leur recherche d'amour absolu, vrai et durable. Cette recherche, sans le dire ou le savoir même, ils la poursuivent à la conquête de ce qui est authentique, exigeant et communautaire. Et plus que nous encore, ils savent discerner très vite ceux qui sont de simples beaux parleurs ou hauts parleurs ou charmeurs spirituels. En fin de compte, les jeunes, rassurons-nous bien, n'ont rien contre le vrai spirituel chrétien. Pour le moment, ils confondent cela à priorité avec l'Église, dont on leur a si mal parlé et si peu bien témoigné. Il faut donc, d'ici à ce que la relance ecclésiale se manifeste, les aider à se brancher, non pas tant à l'Église institution, non pas tant à des mouvements encadrés ou à des styles de pensée de vie préfabriqués, mais les aider à remonter le plus vite à la source de vie qu'il est. Le Père, le Fils et l'Esprit les reconduiront à leur voulu, à leur et notre Église, lorsqu'elle sera réanimée spirituellement. Dans la brochure intitulée « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage » et publiée en juin 1984, dans un message prophétique, je disais ceci. Les jeunes qui ont été les victimes de notre sevrage spirituel des derniers 25 ans retrouveront rapidement et profondément la voix du Seigneur, V-O-I-X, et la voix, V-O-I-E, de son Église. Alléluia. Ce qui est arrivé, mes amis, et qui explique en grande part ce détour que les jeunes font aujourd'hui, c'est que l'amour vrai de Dieu et la réalité de la vraie paternité, donc de notre recherche, accueil et joie dans l'amour du Père, en nous et dans le monde et même en Église, a été détruit, assassiné par les grands philosophes de l'autre siècle, Marx, Freud, Nietzsche et compagnie, et plus près de nous, Sartre. Sous leur influence, qui a pénétré subtilement même l'Église, on a cessé d'être véritablement des enfants du Père pour devenir des numéros, des instincts, des moi, des êtres stoïques, etc. Et sous l'influence de ces philosophes, la peur des autres et de l'autre avec un grand A, toujours menaçant pour notre soi-disant liberté, s'est répandue. Et on a peu à peu, au cours de ce siècle, pris nos distances, ce qui est donc à l'inverse de l'amour et du Père. L'heure approche où va exploser leur richesse de vie au service du Seigneur. Et à travers leurs nombreux brouillons et détours des derniers 25 ans, le Seigneur leur a préparé la route d'un retour extraordinaire. Et leur option, croyez-le, sera simple, clair, vrai, total, et par l'effet de sa grâce, irrésistible et irréversible. Ce sont eux, les jeunes, qui un jour, très bientôt, évangéliseront et rappelleront à l'ordre leurs aînés, j'en suis sûr. Mais on me fait signe que le temps est écoulé. Nous reprendrons et conclurons ce point bientôt.